Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Le vendredi 19 avril 1935, vers 15h15, à Chaumont, en Haute-Marne, dans la cour d'une maison au 56 boulevard Thiers, on entend une mère qui appelle. Nicole ! Nicole ! Où es-tu ? Nicole ! Un maçon qui travaillait à la cave remonte, car à l'entendre, la mère a l'air très inquiète. « Monsieur Dimet, vous n'avez pas vu ma fille ?»« Bah oui, elle était là, elle jouait, il y avait un monsieur avec elle. »« Un monsieur ? Un blanc ? J'ai cru qu'elle le connaissait. » Et maintenant, voilà le père, le commandant Maresco du Tilleul, qui commande depuis 6 mois le 29e régiment d'infanterie. Il lisait au salon un livre sur les guerres napoléoniennes. Il a entendu sa femme appeler. Alors il sort dans la rue et il appelle à son tour. Nicole ! Nicole ! Nicole ! Une voisine qui est en train de coudre devant sa porte l'interpelle. Monsieur le commandant, votre fille ? Ben elle est partie par là. Elle donnait la main à un jeune homme. Il était comment ? Oh, environ 25 ans, tête nue. Il était habillé en gris. C'est un enlèvement. Nicole, 4 ans, a été enlevée. Le commandant prévient tout de suite la police et comme il est le commandant, blessé à Verdun, chevalier de la Légion d'honneur, le commissaire Sandras se met tout de suite au travail. Il fait bloquer les gares et contrôler les voyageurs, ériger des barrages sur les routes et fouiller les bois. Et surtout, ces hommes recueillent des témoignages, beaucoup de témoignages. Des gens qui ont vu un homme avec une petite fille dans la rue, un homme en gris qui rôdait avant autour de la maison du commandant. Bah, il se dirigeait vers le bois qui borde la ville là. La petite fille n'avait pas l'air du tout affolée, elle parlait avec le monsieur. La nuit tombe et on n'a toujours pas retrouvé Nicole. Le lendemain, tout Chaumont est au courant. La petite Maresco du Tilleul a été enlevée à 4 ans. Et dans la matinée, un témoin se présente au commissariat. Commissaire, le jeune qui est parti avec Nicole, je l'ai déjà vu. Il a une moto neuve. La semaine dernière, il faisait le fier dans les rues de la ville. Je l'ai vu. Une moto. Le gars fournit la marque et le modèle. Et comme il n'y a qu'un seul marchand de motos à Chaumont, ben c'est pas bien compliqué. Le blond qui m'a acheté une moto? Ah ben je me souviens très bien de lui. Et vous avez son nom? Ben bien sûr. Soclet. Il s'appelle Soclet, Gabriel Soclet. Gabriel Soclet. Une quincaillère qu'il a vue avec la petite fille sait où il habite. Ah ben je le connais. Il habite rue du Babarisien. Les policiers vont chez lui. Il n'est pas là. Sa logeuse dit qu'il aime déjeuner dans un café en ville. Mais lequel ? Oh ben ça, elle sait pas bien. À l'heure du déjeuner, le commissaire fait cerner tous les cafés de Chaumont. Et au Père Auguste, un bistrot du centre-ville, les policiers le trouvent assis, seul, en train de lire une revue médicale. Gabriel Soclet ? Ouais, c'est moi. Police, veuillez nous suivre. Et mords pas. On s'en occupera plus tard. À 13h, Gabriel Soclet entre au commissariat entre deux policiers, conspué par la foule qui s'est rassemblée à la rumeur de son arrestation. Et on fait défiler les témoins. Est-ce que c'est lui, oui ou non, que vous avez vu tenant la main de la petite Nicole ? Tous répondent oui. Mais ils sont gênés par un détail. Bah, il avait l'air beaucoup plus mince. Et c'est vrai que là, il a l'air plutôt potelé. Disons même grassouillé. Les policiers le font déshabiller pour le fouiller. Et oh stupeur, c'est pour ça qu'il avait l'air d'un canard gras. Sous ses vêtements, il porte de gros paquets de coton. Il a modifié sa silhouette pour ne pas qu'on le reconnaisse. Ce qui est déjà le signe qu'il n'a pas la conscience tranquille. « Pas du tout. Je me trouve maigre. Et alors ?
C'est pas un crime !
Dans l'espoir de provoquer un électrochoc, le commissaire fait venir le père, le commandant Maresco du Tilleul.
Soclé, je vous adjure, qu'avez-vous fait hier après-midi ? Je suis le père de la petite Nicole, je vous en supplie, répondez-moi !
Soclé hausse les épaules.
Je comprends pas ce qu'on me veut. Je suis pas celui que vous cherchez.
Chez lui, dans la chambre qu'il occupe, on découvre un revolver, des chargeurs, 100 cartouches et un couteau à cran d'arrêt. Le lendemain, dimanche de Pâques, le juge d'instruction normand se fait amener le jeune Gabriel Soclé dans son cabinet. Et il lui annonce son intention de l'inculper pour enlèvement.
Bah vous commettez une erreur, hein ? Je suis innocent ! Monsieur le juge, je suis innocent !
Innocent ? Le juge ne le croit pas du tout, car il vient de découvrir que Gabriel Soclé a un passé. Et quel passé ! Alors non seulement il l'inculpe pour enlèvement, mais il l'envoie en prison le soir même, à la maison d'arrêt de Chaumont. L'urgence maintenant, c'est de retrouver la petite Nicole, vivante. Ou plus sûrement morte. Ce Gabriel Soclé, c'est un petit bourgeois, né à Dijon. Papa rentier, propriétaire de nombreux immeubles. Et figurez-vous qu'à 19 ans, en 1926, il a été arrêté pour attentat à la pudeur, à 4 reprises. Il a tenté d'attirer des petites filles dans un coin en leur promettant des bonbons. À 19 ans. Alors vous comprenez maintenant pourquoi le juge n'a pas beaucoup de doutes sur sa responsabilité dans la disparition de la petite Nicole. Attentat à la pudeur sur des petites filles. Ça colle. Et c'est pas tout. Dans le curriculum vitae de ce charmant jeune homme, on trouve aussi une série de vols, le cambriolage d'une bijouterie à Dijon, 30 000 francs de butin, l'attaque d'une pharmacie, et quand on l'arrête, on trouve dans sa chambre les plans d'un hold-up dans le train Paris-Vintimille. Il voulait endormir les passagers avec du chloroforme avant de les dépouiller. Et au bout de tout ça, il a écopé de 7 ans de prison. Autrement dit, le jeune homme de 28 ans qu'on soupçonne d'avoir enlevé et sans doute tué la petite Nicole a déjà passé 7 ans en prison. Et c'est en sortant de prison, il y a 2 mois à peine, qu'il est venu s'installer à Chaumont. C'est peu dire qu'il a le profil d'un violeur et d'un tueur de petites filles. D'autant que maintenant, il y a des parents qui disent que la veille de la disparition de Nicole, il a tenté d'entraîner d'autres fillettes après leur avoir offert des bonbons. La veille. Et puis il y a quelque chose qui va attiser l'intérêt de la presse pour cette affaire. Tous les matins, depuis qu'il est sorti de prison, Gabriel Soclé va à l'abattoir de Chaumont se faire servir un grand bol de sang frais. Et il le boit d'un trait, comme un grand bol de lait. Quand le juge l'interroge là-dessus, il a une réponse. À vous de juger. Mais monsieur le juge, c'est un remède. C'est pour lutter contre la tuberculose. Il dira ce qu'il voudra. Les journaux lui ont déjà trouvé un petit nom. Le vampire de Chaumont. À part ça, ça fait 4 jours que la petite Nicole a disparu. Et les policiers n'ont aucune piste pour la retrouver. Vivante, ou plus sûrement morte. Comme souvent, les voyantes s'en mêlent. Une madame Irma de Paris prétend que Nicole est enterrée au pied d'un gros chêne dans la forêt d'Arc-en-Barrois. On y va, on fouille, on creuse, on perd son temps. Le père exaspéré embauche alors un détective qu'il fait venir de Suisse, un certain Paul Rochat, de Genève. Et il arrive avec ses 2 chiens, Chek et Zita. Et le matin à l'aube, il les amène à l'endroit où Nicole et Gabriel Soclé ont été vus pour la dernière fois. Il leur donne à flairer un vêtement de la gamine. Les chiens hésitent, partent dans une direction, puis dans l'autre. Ils ne trouvent aucune piste. 4 jours. C'est trop tard. Ça n'a pas marché avec le détective. Le père embauche un radiesthésiste, un certain Mermet, suisse lui aussi. Il affirme que si on lui donne une carte de la région, une photo récente de Nicole et un morceau de ses vêtements, il peut la localiser. On lui donne tout ce qu'il demande. Et il annonce « L'enfant a été mutilé et violé. Son corps repose dans le petit bois, sous 40 cm de terre. » Tant qu'à faire, on lui demande s'il connaît le coupable. Le coupable ? Mais c'est Sauclay. Il y a une corrélation profonde entre la disparition de l'enfant et lui. Le 27 avril, le juge normand confronte Gabriel Sauclay avec les témoins. Où étiez-vous vers 15h45 ? Bah, je venais d'entrer au bar moderne. Je me suis assis à gauche, je me souviens, près de la porte. J'ai bu une chopine de vin blanc, et puis j'ai remarqué 3 militaires qui étaient assis au fond du café. Ils jouaient aux cartes. Or, tous les témoins disent qu'ils l'ont vu au café. C'est vrai. Mais 2 heures plus tôt. Vous avez vu quelque chose d'autre au bar moderne, une scène qui vous aurait frappé ? Bah non. Non, rien de particulier. Or, tout le monde dit qu'à 16h, toute une famille est rentrée dans le bar, papa, maman et les enfants, qui criaient et qui chantaient. Il ne les a pas vus, il n'en parle pas. Il n'y était pas. Une madame Broyard raconte devant lui la scène suivante. « Je vous ai croisé, avec la petite. Je vous ai bien dévisagé. Vous aviez des cheveux blonds rares et coiffés en arrière, vous aviez un costume gris et une chemise bleue. Il était 15h50 et on était rue Valmarie. » Vous trompez, madame. Je suis venu qu'une seule fois dans ce quartier, il y a un mois, et j'ai jamais porté de chemise bleue. Je maintiens formellement ce que je viens de dire. 5 autres témoins confirment avoir vu Sauclay et la petite fille. Mais je vous dis que c'est pas moi. Je suis victime d'une extraordinaire ressemblance. D'ailleurs, j'ai connu mon sosie, tiens. Je l'ai vu à Collioure, mon sosie. Le bal des charlatans se poursuit. Voyante, radiesthésiste, devin, médium. Ils savent tous où est Nicole. Il y en a partout, avec des baguettes, avec des pendules, avec des boules de cristal, avec du marc de café. C'est dingue tout ce que ces charlots font perdre comme temps aux policiers. Le grand magazine de faits divers Détective offre maintenant 100 000 francs à toute personne qui contribuera à retrouver la petite fille. Et pendant ce temps, Sauclay ne perd pas le nord. On découvre dans sa cellule à la prison de Chaumont un plan d'évasion. Et il écope de 60 jours de mitard au pain sec et à l'eau. Mais la petite Maresco du Tilleul reste introuvable. On a peut-être son assassin. Mais sans corps, est-il un assassin ? Demain, ça fera 6 mois que Nicole a été enlevée. Et voilà qu'une femme de laboureur débarque en sueur au commissariat, sur son vélo. « Monsieur le commissaire ! Monsieur le commissaire ! Mon mari, il a retrouvé les restes de la petite Nicole, venez vite !» Elle dit qu'il était dans son champ, à labourer avec ses chevaux, et que pour faire souffler les bêtes, il est allé aux champignons, dans le bois d'à côté, et qu'il a vu un tas de pierres, pas naturelles, et que dessous, il y avait une étoffe rouge, comme un morceau de vêtement et 3 petits os brisés. Le commissaire Sandras douche un peu son enthousiasme. « Vous savez, madame, vous n'êtes pas la première à venir nous chercher pour des ossements. Mais la dernière fois, c'était un chien, et la fois d'avant, c'était un renard. » Sauf que la dame dit que c'est au Combe, en bordure du bois de Saint-Roch. C'est dans cette direction que Gabriel Sauclay et Nicole ont été vus pour la dernière fois. « Allez, on y va !» Quand le commissaire et ses hommes arrivent sur place, il fait déjà nuit et l'exploration du tas de pierres se fait à la lueur d'une lanterne. Un policier déplace une pierre et on voit apparaître une mèche blonde et les restes d'un corset rouge de petite fille. « Oh ! Oh, c'est ça ! C'est ça !» dit le commissaire Sandras.
Deux hommes en faction toute la nuit. Interdiction à quiconque de pénétrer dans le bois.
Le lendemain, à 7h, le commissaire conduit le juge Normand sur place. Et il fait dégager l'ensemble du corps, qui est déjà bien décomposé. Il n'y a plus de doute. Les vêtements correspondent parfaitement à ceux de Nicole. En début d'après-midi, le juge fait extraire Gabriel Soclé de sa prison et il le fait emmener sur place. Et devant lui, il soulève lentement la bâche qui dissimule le corps.
Soclé, voici votre œuvre.
Le juge, évidemment, compte sur sa réaction. Il n'en a aucune. Pas de geste de recul, pas de signe d'émotion particulière.
Je sais pas pourquoi on s'entête à m'accuser.
Allons, ne niez plus. Soulagez votre conscience, regardez-moi bien en face, Soclé.
Ah, vous m'intimidez pas, hein. Je me laisserai pas couper le cou pour vous faire plaisir, hein. Et puis d'abord, qu'est-ce qui prouve qu'il s'agit du cadavre de la petite, hein?
Bien sûr, on fait prévenir le commandant Maresco du Tilleul, qui, à sa demande, s'est fait muter il y a quelques semaines, loin de Chaumont. Pour l'autopsie, on fait venir de Paris le docteur Charles Paul, célèbre depuis qu'il a officié dans l'affaire Landru. Ses conclusions sont que la petite fille est morte la tête écrasée, sans doute par une grosse pierre. Du coup, Gabriel Soclé est désormais inculpé d'enlèvement, séquestration et assassinat. C'est la peine de mort qu'il risque, la guillotine au petit matin dans la cour de la prison de Chaumont. Son procès s'ouvre le 30 novembre 1936 devant la cour d'assises de Chaumont. Pour sa défense, Gabriel Soclé a enrôlé un ténor du barreau de Paris, maître Jean-Charles Legrand. Le matin du premier jour, la tronche de Soclé s'étale à la une de tous les journaux. Avec son béret basque enfoncé jusqu'aux oreilles, il a l'air du parfait simplet, la tête de l'emploi, écrivent les journalistes. Pendant ce procès, on fait défiler à la barre 74 témoins différents. Un pince somme, une tannée. Le docteur Adam, médecin psychiatre, vient délivrer son avis.
Soclé est un pervers intelligent. Il est déséquilibré, mais il n'a pas agi en état de démence.
Fou donc, mais pas totalement. Le samedi 3 octobre, le procureur Larose réclame la peine capitale contre Gabriel Soclé. L'avocat des parties civiles, maître Honoré, tonne dans un silence effrayant.
On vous a suivi, pas à pas, Soclé. Parti avec la jeune Nicole, c'est vous le ravisseur, revenu sans elle, c'est vous l'assassin.
Maître Legrand, son avocat, insiste sur l'absence de preuves matérielles, la fragilité des témoignages. Il évoque le spectre de l'erreur judiciaire. Il fait le métier, et en l'occurrence, c'est pas facile.
Le crime est atroce, c'est certain. Mais ce qu'il importe de savoir, c'est si le coupable est ici. Et il ne l'est pas.
À 20h, la cour se retire pour délibérer. Il s'agit de répondre à 4 questions. Soclé a-t-il enlevé Nicole Maresco du Tilleul? Le rapt a-t-il été commis sur une jeune fille de moins de 16 ans? Soclé a-t-il tué Nicole Maresco du Tilleul? Le crime a-t-il accompagné ou suivi le rapt? 20 minutes plus tard, les jurés répondent oui aux 4 questions. Et le président annonce sa condamnation à mort.
Moi? Condamné à mort? Je refuse! C'est une injustice! Je suis victime de la société! Sale race, va! Monsieur le procureur de la République, vous devriez avoir honte de ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous êtes un misérable! Vous tous qui êtes dans la salle, vous êtes des misérables!
Et le public hurle en retour.
À mort! À mort! À mort!
Le soir, Gabriel Soclé est conduit dans la cellule réservée aux condamnés à mort. Éclairé de jour comme de nuit, un lit fixé au mur, un surveillant qui mate 24 heures sur 24, les deux chevilles entravées par une courte chaîne. Le sort des condamnés à mort en 1936. Avec cette obsession, il ne faut pas qu'il se suicide avant avant d'être exécuté. Gabriel Soclet, d'ailleurs, est très contrarié de ne pas être dans sa cellule habituelle. Et il le dit au gardien, il veut y retourner. Ah, mais c'est qu'on l'a vidé. C'est qu'on l'a remise en ordre. Oh, alors vous avez trouvé. Trouvé quoi? Qu'est-ce qu'on aurait dû trouver dans sa cellule? Le directeur ordonne une fouille complète de la cellule et des affaires. Et on trouve deux étuis, du genre qu'on peut se glisser dans le fondement. Si vous voyez ce que je veux dire, genre étui à cigare, les détenus en général appellent ça coffret. Ces deux tubes, on les dévisse, dedans, il y a une lime, des allumettes et un grattoir, ainsi qu'un plan de la Guyane, des adresses à Cayenne et des noms de bagnards. Il pensait être condamné au bagne de Cayenne, il avait déjà prévu son évasion. Quel animal! En attendant, Soclet s'est pourvu en cassation. C'est sa dernière chance. Et là, ça peut se jouer pour un rien. Une petite erreur dans un dossier, une faute de procédure, une signature qui manque. C'est très rare. Mais ça arrive qu'un procès d'assises soit cassé. La décision de la Cour de cassation tombe le 17 décembre. Ah, ça ne traînait pas à l'époque. Et c'est incroyable. Le jugement est cassé. Sur une peccadille, le président de la Cour d'assises de Chaumont a oublié de poser une question au juré. Est-ce que Nicole Maresco a été enlevée au domicile de ses parents? Et maintenant, il faut donc organiser un nouveau procès. Et ce procès, il a lieu 2 mois plus tard, devant la cour d'assises de Dijon. Et oui, c'est en principe, on ne rejuge jamais au même endroit. Et les assises de Dijon, il connaît bien Soclet. Il y a été jugé en 1926 pour attentat à la pudeur sur 4 jeunes filles, et une deuxième fois en 1927 pour vol qualifié. C'est cette cour d'assises de Dijon qui l'a envoyé pendant 7 ans derrière les barreaux. Et cette fois-ci, on va assister à un joli numéro d'avocat. Maître Legrand sort le grand jeu. Il veut lui sauver la tête. Et pour ça, il ne laisse rien passer. Par exemple, un témoin dit qu'il a vu l'accusé le jour du drame. Alors l'avocat demande à Soclet de venir à la barre et de faire quelques pas. Il n'a pas les jambes arquées. À un moment, il sort une photo et il la brandit devant la cour. Savez-vous qui est cet homme? Vous pensez que c'est Gabriel Soclet? Eh bien, pas du tout. Celui-là s'appelle Feldel. C'est un repris de justice. Faites-le venir, monsieur le président. Présentez-le aux témoins. C'est une ruse, bien sûr. Ce Feldel n'a rien à voir dans l'histoire. Mais ça fait son petit effet, cette ressemblance. Le jury se retire pour délibérer le 20 février 1937 au soir. Et cette fois, il faut 1 heure avant que les jurés ne rendent leur verdict. Comme à Chaumont, ils ont répondu oui aux questions posées. Gabriel Soclet est coupable de l'enlèvement et du meurtre de Nicole Maresco du Tilleul. Mais il lui accorde les circonstances atténuantes. Il sauve sa tête, il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Ce qui ne l'empêche pas de gueuler comme un âne. « Mais je veux l'acquittement! Je l'aurai un jour! Je suis pas coupable! Je suis une victime !» Et sa mère, qui lui répond en écho depuis la salle. « Oh mon petit! Tu es innocent! Ton père est là, et moi aussi! Pauvre chéri !» Il est censé partir pour le bagne, en Guyane, qu'on appelait à l'époque la guillotine sèche. Eh ben il n'ira pas, figurez-vous. Car le Front Populaire vient d'arriver au pouvoir, il a suspendu les déportations vers le bagne de Cayenne. Soclet ira donc tout simplement en prison, dans le Maine-et-Loire, dans l'ancienne abbaye de Fontevraud. Il va y passer 25 ans en prison. 25 ans. Et en 1960, il retrouve la liberté. Un mois plus tard. Un mois après sa sortie de prison, il suit une petite fille de 11 ans, Jacqueline, et lui propose des bonbons. On imagine la suite. Heureusement, un passant intrigué donne l'alerte, Gabriel Sauclé s'enfuit, il se met en cavale et il écrit à la police. « Vous m'avez eu une fois, je vais pas me jeter dans la gueule du loup. Venez me chercher, mais vous aurez peut-être du mal à me trouver. » Il est finalement repris. Et c'est reparti pour un procès. Et oui, il a tenté d'enlever une fillette. Ça n'est pas rien. C'est à ce moment-là qu'il écrit un texte, une sorte de confession pour son avocat. C'est la première fois que Gabriel Sauclé parle de la perversité qui le ronge. Lâché subitement à la rue à l'âge de 17 ans, ne connaissant rien à l'existence des femmes, réservé avec les jeunes filles par manque de contact amical, puisque ma mère n'a jamais voulu que j'apprenne à danser et à fréquenter. Alors le besoin normal de sexualité, se révélant avec l'âge, m'avait donné l'idée d'étudier le sexe féminin sur des petites filles. Et cette idée me procura une griserie bien compréhensible, en l'occurrence. Dans ce texte, il n'avoue pas le meurtre de la petite Nicole. Mais concernant l'agression de Jacqueline, voilà ce qu'il écrit. Libéré de Château-Thierry le 26 juin 1960, j'ai soif surtout de tendresse féminine, soif d'aimer surtout sentimentalement une jeune fille ou une jeune femme. Moi qui ai été privé d'affection toute mon existence, je cherche à Dijon, je ne trouve pas. Alors faute de mieux, on a tendance à se reporter provisoirement sur des fillettes. Et cependant, je sais que ça n'est pas ce que je souhaite. C'est un simple palliatif. Je décide de tenter une ultime expérience sur une fillette pour savoir si mes réactions sexuelles seraient les mêmes qu'au temps jadis. Cette fois-ci, les experts le déclarent irresponsable et l'envoient dans un hôpital psychiatrique pour le restant de ses jours. Et Gabriel Sauclé est mort le 29 juin 1981 à l'hôpital psychiatrique de Sarreguemines. Il avait 73 ans.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.